Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est l'heure du journal de la culture. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Vous avez la voix très enjouée, c'est quoi votre défi du jour, si tant est qu'il y en ait un?
Un défi tous les jours, hein, vous savez, vous me connaissez Philippe Vandel quand même. Alors aujourd'hui je me lance, j'ai tellement honte, dans une quiche au poireau.
Mais il ne faut pas avoir honte.
Mais non, mais c'est pas ça, c'est parce que c'est tellement facile. Mais moi, ça va être ma première quiche au poireau de toute l'histoire de ma vie. Donc je suis un peu émue et j'espère qu'elle sera réussie surtout.
Bon, voilà. Si elle est...
Et je m'engage à vous envoyer une photo, Philippe, surtout après.
Avec grand plaisir, je vais la mettre sur les réseaux sociaux. On va commencer ce journal Hélène avec un festival de cinéma virtuel.
Il s'intitule We Are One Global Film Festival, je vais y arriver. Comprenez, un festival mondial du film qui se tiendra en ligne du 29 mai au 7 juin sur YouTube en tapant We Are One. Alors festival mondial, oui, pourquoi? Puisque ce festival en ligne rassemblera surtout 20 festivals de cinéma comme Cannes, Venise, Berlin ou encore celui de Toronto. Ils se sont tous associés pour cet événement. Alors c'est organisé par le festival américain de Tribeca qui a été créé par entre autres Robert De Niro. Alors il y aura des longs métrages, courts métrages, documentaires, de la musique et des tables rondes virtuelles. Le programme exact sera détaillé dans les prochains jours et surtout comment tout cela va se mettre en place entre les festival. Une partie des recettes de ce festival virtuel sera versée à l'Organisation Mondiale de la Santé ainsi qu'à des associations caritatives.
Tout autre sujet, Hélène, une pétition a été lancée pour soutenir l'opéra.
Vous avez reconnu Maria Callas, alors une pétition...
J'avais dit Tom Lembois. Donc...
Ah, c'est pas loin. Une pétition lancée par deux stars de l'opéra, Jonas Kaufmann, ténor allemand, et Ludovic Tessier, baryton français. Elle a été publiée hier sur change.org. Alors les opéras, au même titre que les théâtres ou salles de concert, sont fermés suite à la crise sanitaire et jusqu'à nouvel ordre. Les deux artistes évoquent un art fragile et ils demandent un appui fondamental au présent et à l'avenir du monde lyrique et au-delà à toutes les professions du spectacle vivant gravement menacées. Jonas Kaufmann et Ludovic Tessier expliquent que même si certains opéras sont diffusés à la télévision ou sur les plateformes, cela ne change rien pour les contrats artistiques et ce n'est donc pas une compensation. Ils demandent de l'aide au gouvernement et au public. Ils craignent aussi une baisse des subventions culturelles.
Et puis Joe Star, un tout autre genre, s'engage auprès de Médecins du Monde.
Le rappeur et acteur a publié une vidéo sur le compte Instagram et la plateforme Music for Heroes, dédiée à Médecins du Monde. Alors, Joe Star a décidé de reprendre le titre Océan d'amour du chanteur Christophe, récemment disparu. Une manière de lui rendre aussi hommage, tout en éloquence. Écoutez.
Le courant t'emporte. J'ai beau te serrer fort, la vie s'acharne encore. Nos corps qui se balancent. Du mort, je contredanse. Et dans ce cœur à cœur, notre amour fou se meurt. Moi, sous les étoiles, j'entends ta voix crier tout bas. Mes mains se perdent dans ce feu tiède. C'est informel. La scène est belle. Je ne te quitte plus. Ça, c'est bien moi. Tout craché. Le courant t'emporte. J'ai beau te serrer fort. La vie s'acharne encore. Nos corps qui se balancent du mort. Je contredanse. Et dans ce cœur à cœur, notre amour fou se meurt.
Voilà, un moment assez suspendu. Joe Star est dans son salon, ses lunettes jaunes sur sa tête. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Alors, Music for Heroes a été créé dès les premiers jours de la pandémie sur cette plateforme. Les artistes sont invités à se produire en partageant un titre de leur choix. Axel Lafont, Kali, Madame Monsieur, Dionysos, Aurélie Saadat et Brigitte ont déjà participé. Et lorsque vous vous rendez sur cette plateforme, vous pouvez donc faire un don pour Médecins du Monde.
Et on termine ce journal, Hélène, avec un retour qui nous rend très très heureux.
Évidemment, on a un petit peu tous dansé chez soi. Alors Philippe, allez-y, je vous laisse annoncer de qui il s'agit parce que je sais que ça vous fait plaisir.
Mais bien sûr, le retour de Daft Punk, le retour annoncé de Daft Punk.
Exactement, vous m'avez envoyé la news hier. Alors après 7 ans, Philippe, 7 ans après leur succès Get Lucky, le duo français revient. Alors comment? comment ils signeront la bande-annonce du prochain film du cinéaste italien.
La bande originale, pas la bande-annonce.
La bande originale, ouais. Pardon. En plus, j'ai écrit la bande originale. J'ai été déconcentrée.
C'est la quiche.
Du cinéaste italien Dario Argento, qui s'appellera Occhialinari. Alors, au casting, sa fille Asia Argento. C'est la deuxième fois que les Daft Punk signeront la bande originale d'un film. La première fois, c'était en 2010 pour la suite du film Tron.
Ouais.
Tron. Alors, Tron, est-ce qu'un
c'est américain.
Je sais, mais comme j'ai dit Tron la dernière fois. Alors, est-ce qu'un film, un album est aussi en préparation? Mystère.
Ben, on compte sur vous pour nous informer. Merci beaucoup, Hélène.
Évidemment.
Je vous souhaite une très, très bonne quiche. Dans un instant, on reçoit l'écrivain Philippe Génada. Il a publié deux nouvelles pour deux collectifs. Mais d'abord, musique. On va écouter Claudio Capeo et son nouveau titre. Tiens, très joli titre sur Europe 1. C'est une chanson.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour, Philippe Génada.
Bonjour Philippe Vandel.
Merci d'être avec nous. Vous êtes romancier, prix de Flore pour Le Chameau Sauvage, prix Femina pour La Serpe. Vous qui êtes si prolifique, vous publiez deux nouvelles pour la bonne cause. D'abord, Libéré, délivré, c'est en trois mots, dans le recueil des mots par la fenêtre. Et aussi, un bri-bri à 300 km/h dans le cadre d'une version numérique du recueil Très à table au profit des Restos du Cœur. Mais d'abord, le recueil des mots par la fenêtre. L'intégralité des recettes va être reversée à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. 64 auteurs se mobilisent et ont donné des textes, il y a des noms prestigieux, Orsena, Alain Rey, Tatiana de René, Daniel Steele, Christiane Taubira, Françoise Bourdin, Sophie Fontanelle, Yasmina Kadra, Étienne Klein et même Philippe Génada. Et la raison pour laquelle j'ai voulu vous recevoir, c'est qu'après avoir lu votre nouvelle, dans laquelle vous racontez avoir déjà subi une expérience de confinement, volontaire, vous écrivez ceci: « Il m'a fallu des années, peut-être 20, pour comprendre pourquoi je m'étais mis en 1988 à tenter toutes sortes d'expériences stupides. Avant qu'on parle du confinement, quelles expériences avez-vous tenté ?
Alors, plusieurs petites choses. J'étais un peu perdu, donc je faisais des expériences, je pensais pour m'amuser, des expériences de privation. C'est-à-dire, par exemple, j'ai passé une semaine sans manger, une semaine sans dormir ensuite. J'ai fait un mois en ne me nourrissant que de café au lait.
Vous avez tenu un mois ?
Oui, un mois, oui.
Que du café au lait ?
Ouais, on passera sur les détails digestifs, mais un mois, j'avais lu quelque part, je sais pas où j'avais lu cette ânerie, qu'on pouvait survivre aisément avec du café, du lait, du sucre. Donc voilà, c'était vrai, j'ai fait une semaine sans marcher debout, par exemple, des choses comme ça.
Alors racontez le stratagème, c'est-à-dire sans marcher debout, vous êtes dans votre chambre, chez vous, vous faites quoi ?
Ouais, et j'ai tendu j'avais un studio, un tout petit studio, j'ai tendu des fils, des bandes de cassettes, des bandes magnétiques de cassettes, j'en ai tendu partout, dans tout mon studio, à partir de 50 cm du sol jusqu'en haut, pour pas pouvoir me lever. Et donc j'ai rampé comme un crétin pendant une semaine, sauf pour me glisser dans mon lit ou pour escalader les toilettes, quoi.
Alors on va parler de l'expérience finale qui nous intéresse. Vous vous êtes isolé et enfermé volontairement dans votre nouvel appartement dans le 17e arrondissement. Pendant combien de temps, Philippe Génada ?
Alors au départ, c'était prévu pour un an, un peu bêtement, de manière un peu scolaire. Je voulais commencer le 1er janvier et finir le 31 décembre.
Ouais.
Et puis, je me suis tellement enraciné là-dedans, j'avais l'impression d'être à la fin, d'être couvert de moisissures et de champignons. J'ai pas réussi à sortir au bout d'un an, donc ça a fait un an et 17 jours. Je suis sorti le 17 janvier 90.
Dans quelles conditions ?
Je suis sorti...
Non, déjà chez vous. Chez vous, c'était comment ? Les volets étaient fermés, il n'y avait pas de téléphone.
Non, il n'y avait ni téléphone, ni rien qui puisse m'apporter quoi que ce soit de l'extérieur. C'est-à-dire que j'avais pas de télé, j'avais enlevé ma télé, ma radio, téléphone, chaîne IFI, il y avait mon Minitel.
Ouais.
Il y avait absolument rien qui pouvait me relier à l'extérieur, les volets fermés pendant un an. Et je sortais 5 minutes, 3 minutes par jour, un peu comme aujourd'hui on fait d'ailleurs, pour aller acheter des clopes et un paquet de pâtes, quoi.
Alors c'est là où je voudrais en venir. Comment avez-vous vécu cette expérience ? Et deuxième question qui va avec la première, dans quel état physique et mental en êtes-vous sorti ?
Comment j'ai vécu cette expérience, c'était en plusieurs étapes en fait. J'étais un peu débile à l'époque, j'étais un peu jeune, donc les deux premiers mois ça m'amusait beaucoup. Je me disais, je suis en train de faire quelque chose d'incroyable, je m'isole comme dans une grotte, etc. Et puis ensuite évidemment un ennui considérable m'est tombé dessus. Et j'ai failli abandonner plein de fois. Et puis après je pense que c'est un peu le même principe que la grève de la faim. On dépasse un stade où tout d'un coup l'ennui n'existe même plus. Et donc les 6 derniers mois, j'étais dans une sorte de transe léthargique, ou je sais pas, enfin j'étais vraiment dans un état second. Et donc j'en suis sorti à la fois socialement handicapé, hein, c'est-à-dire ça m'a pas quitté depuis. J'avais vraiment du mal à me mettre dans des groupes ou même à parler, à aller à des dîners, à parler avec des gens. Mmh. Et en même temps, moi qui étais complètement déséquilibré, paumé avant ça, tout d'un coup je me sentais stable et fort et, sans employer de grands mots, mais libre, quoi.
Alors justement, j'allais dire, je peux lire la conclusion de votre nouvelle qui est complètement dingue, vous me permettez ?
Ah, bien sûr.
Depuis le 17 janvier 1990, écrit Philippe Génada, je me sens, même en ce moment confiné, et même si ce n'est qu'une illusion, même surtout si c'est nunuche à dire, libre, sans rire. Et vous sentez libre désormais avec cette expérience volontaire de confinement dans les années 90.
Ouais, je pense que ça m'a détaché. Bon, c'est un peu, j'ai réfléchi à ça bien des années après, hein, mais que ça m'a détaché de certaines obligations, de certaines contraintes, certains rails, j'en sais rien. Enfin, je sais que ça m'a fait du bien, en tout cas. Philippe, deux secondes. Les gens là, je pense, en ce moment, vont ressortir de ce confinement avec quelque chose peut-être aussi de cet ordre-là, d'avoir pris du recul forcé, de s'être isolé, comme une sorte de gestation. Ça va modifier des choses, c'est sûr, je pense, chez les gens.
Et vous pensiez déjà à l'époque devenir écrivain ou c'est arrivé plus tard comme vocation ?
Alors, j'y pensais pas du tout, et je l'ai fait. J'ai commencé à écrire pendant cette année-là, mais alors vraiment, et là pour le coup, très sincèrement, sans aucune ambition, ni illusion de publication, ni rien, c'était juste pour essayer de tromper l'ennui, et parce que je n'ai pas parlé pendant 1 an et 17 jours, j'ai pas ouvert la bouche, donc pour que quelque chose sorte de moi, j'avais du papier et un crayon, j'ai écrit des nouvelles, j'ai griffonné, mais vraiment, si j'avais eu une guitare, j'aurais joué de la guitare. C'était vraiment une occupation, on n'a qu'à dire, et puis voilà, ça m'est resté finalement.
Et maintenant vous êtes devenu un écrivain qui vit de sa plume, il y a une deuxième nouvelle qui est publiée en ce moment, c'est au préfil de l'album 13 à table, là je précise, c'est un recueil de nouvelles qui sort tous les ans, édité par Univers Poche. Tous les bénéfices vont au Resto du Cœur, et c'est pas qu'un peu. Depuis 2014, les 5 précédentes éditions de 13 à table ont permis au Resto du Cœur de distribuer près de 4 millions de repas. Alors cette fois, il y avait un thème, le voyage, là aussi des noms prestigieux, Leïla Slimani, Philippe Besson, Alexandre Lapierre, Véronique Ovaldé, Michel Bussy. Sauf qu'avec vous, Philippe Génada, c'est jamais comme les autres. Là, je cite votre première phrase. « Les voyages m'ont toujours fait peur », écrivez-vous. « L'idéal, évidemment, serait de ne jamais sortir, de rester enfermé chez soi avec, à la rigueur, quelques prudentes excursions chaque jour au bistrot, au coin de la rue. Finalement, vous êtes quand même concédé à la volonté de sortir. » Et là, vous racontez une expérience unique de voyage en TGV, du retour d'un salon de livres. Que s'est-il passé dans le train ?
Alors, il s'est passé une aventure rocambolesque et terrible. Quelques amis et moi, il y avait Véronique Ovaldé d'ailleurs, je le dis pas dans la nouvelle, mais là je la balance, il y avait Véronique Ovaldé, nous nous sommes fait attaquer par plus de 20 rugbymen barbares, ivres morts, qui ont tenté de nous faire subir les derniers outrages, mais au début on rigolait, puis ça a tourné un peu au vinaigre, et donc pour résumer, ça va être un résumé un peu rapide, mais j'ai dû m'envoyer 1 litre de la boisson la plus immonde qui puisse exister sur Terre, je pense, forcé par ces brutes.
Il n'y a pas de poison, on peut dire la boisson. C'était quand même un tiers de bière dégueu, un tiers de vin dégueu, un tiers de whisky premier prix.
Oui, exactement. Ouais.
C'est ça.
Deux fois 50 centilitres Q7, ils m'ont fait boire. Sous la menace.
J'ai honte parce que je ris, j'ai honte parce que c'est terminé, qu'on n'a plus le temps. Et je vous dis allez acheter ce recueil pour plein de raisons. D'abord, c'est vraiment pas cher. Ça s'appelle 13 à table, c'est moins de 5 euros, c'est au profit des Restos du Cœur. Les mots par la fenêtre et votre nouvelle libérée, délivrée, on retrouve tout ça. Merci Philippe Génada d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Culture Média continue dans un instant. Notre première indispensable du jour, ce sera avec Louise Bernard. Elle va nous parler du documentaire Ni juge ni soumise, consacré à une juge d'instruction. Je ne vous dis que ça, à tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
L'heure des indispensables maintenant. Premier indispensable du jour avec vous, Louise Bernard, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, vous nous conseillez un film documentaire, coup de cœur, visible gratuitement en replay sur France 3 cette semaine et en VOD tout le reste de l'année. Il s'appelle « Ni juge, ni soumise ».
Oui, c'est signé Jean Libon et Yves Inan et ça suit le quotidien d'une juge d'instruction belge. Mais pas n'importe laquelle, hein. Anne Gruet est un personnage. Elle est truculente, déroutante, avec un sens de la répartie incroyable. Les réalisateurs l'ont suivi pendant 3 ans dans son quotidien, fait de paperasse et d'audition dans son bureau. Alors, avec un autre juge, ça aurait pu être un documentaire banal sur le fonctionnement de la justice. Mais avec elle, ça devient un petit bijou avec des scènes plus hallucinantes les unes que les autres.
J'ai fait le calcul. En prison, ça coûte 150 euros par jour. C'est une fortune. En fait, ce qu'il y a de moins cher, c'est que vous mouriez tout de suite.
Sa maman, ma grand-mère et le grand-père de mon père, c'est des sœurs et frères.
Oui, mais attendez, vous imaginez un peu ? La consanguinité, c'est connu depuis toujours. Ça fait des siècles qu'on sait ça.
On en apprend tous les jours.
Si demain, vous réattaquez une bobonne, c'est ma tête qu'on verra dans la presse en disant « Cette connasse a libéré un type dangereux ».
Ça a l'air très drôle.
Mais oui, c'est grâce au franc-parler de la juge et sa manière si unique mais efficace de mener les auditions. On se surprend même parfois à rire face à certaines situations qui sont pourtant dramatiques.
Alors cette juge, elle s'occupe de quel type d'affaires ?
Alors, il y a une affaire qui sert de fil rouge dans le documentaire, c'est le meurtre de deux prostituées qu'elle tente de résoudre, mais plus de 20 ans après, grâce au progrès de la science. Et ça lui tient vraiment à cœur. Sinon, c'est ce qu'on appelle la justice du quotidien, donc des affaires de raquettes, de vols, de trafic, des violences conjugales aussi. Et justement, quand elle auditionne un mari accusé de battre sa femme, ça vous donne un aperçu du genre de face-à-face musclé auquel on peut assister.
Alors vous avez dit deux choses à la police qui m'ont frappée, c'est-à-dire un, je suis turque et c'est comme ça, la mentalité est ainsi, je veux savoir ce qu'elle fait et avec qui elle a des contacts.
J'ai pas vraiment.
Alors là, je voudrais comprendre, parce que moi, j'ai pas compris.
J'ai dit seulement que dans notre culture, on peut...
Attendez, monsieur, vous êtes né où ça ?
En Belgique.
Vous êtes belge ou turc ?
Je suis belge.
Alors votre culture, c'est quoi ?
C'est belge ou turc. Je vis de deux côtés, madame.
Vous vivez des deux côtés, monsieur, sauf que vous avez choisi un des deux côtés.
Oui.
Ce que vous appelez votre culture n'est pas compatible avec le mode de vie dans lequel vous êtes pour le moment, c'est-à-dire en Belgique.
Sacrée personnalité, hein, je vous l'avais dit.
Ouais, on n'entend pas ça dans les documentaires avec des juges français. Comment les réalisateurs ont fait pour tomber sur cette juge d'ailleurs ?
En fait, ils la connaissaient, ils l'avaient déjà suivie pour une émission culte, Striptease.
Mais oui, j'ai reconnu la musique.
Ah, c'est ça, je vous ai dit d'attendre avant de le dire. Ils ont voulu lui consacrer... Ouais, exactement. Ils ont voulu lui consacrer un format plus long. On comprend pourquoi, hein. Le documentaire est totalement fidèle à l'esprit de l'émission. C'est-à-dire que parfois, la réalité est tellement dingue qu'on se demande si on n'est pas plutôt en train de regarder une fiction. Et puis après, on revient vite sur Terre avec des moments parfois très durs, notamment une affaire d'infanticide bouleversante. Et puis à cause de cette volonté de montrer la réalité de manière très crue, les photos des morts, un cadavre déterré sous l'œil de la caméra, certaines images et propos peuvent d'ailleurs un peu heurter par moments. À noter quand même que tout le monde apparaît à visage découvert, même les prévenus, ce qui c'est très rare dans un documentaire sur la justice. Mais à vrai dire, on remarque surtout la juge Anne Gruet qui crève l'écran.
Si vous vous écartez, si vous me trahissez, alors je peux vous gérer que la prison, c'est rien à côté de moi.
Voilà, ni juge ni soumise, sacré meilleur film documentaire au César 2019. C'est à voir gratuitement jusqu'à vendredi sur la plateforme de France TV ou plus tard en VOD.
Merci beaucoup Louise Bernard. Dans un instant, on va retrouver notre second indispensable du jour avec Mathieu Charrier. On va partir au pays des cow-boys et des indiens, le Far West. On va vous recommander le pire des westerns. Mais d'abord, musique avec Barry Moore et le titre Hey Now sur Europe 1.
Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your games. So tag me in. Spray coming for your flesh and your bones. Inside, in between. I'm playing contract, never not alone. No time left for me. Land and space, all the words, freedom over, but your page is drowning in. Inside out, keep it brief, keep it sober. Can you keep it out of sight from me? When you're cutting it close, but nothing has changed. Fighting with most and placing the blame. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways. Karma shifting shapes in the shadows. Staying inside the lines. Lost all trace of the life that you borrowed. Lost all sense of time. A cheap tricks, just kicks, just to keep it steady. Severed at the roots. Silence rules when your heart's feeling heavy. Silence tells the truth. When
when you're cutting it close, but nothing has changed. Fighting with most and placing the blame. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. Never was a fan of your ways, but I'm still here playing your games. So tag me in.
Hey now, c'était Barry Moore sur Europe 1. Dans un instant, notre deuxième indispensable du jour avec Mathieu Charrier, direction le Far West et les westerns incontournables à voir ou à revoir, juste après une courte pause.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Second indispensable du jour avec vous, Mathieu Charrier, bonjour.
Bonjour à tous.
À tort, j'ai annoncé que vous allez nous parler des pires westerns, mais là c'est l'inverse, vous allez nous annoncer les meilleurs westerns à voir ou à revoir.
Ouais, parce qu'à lui seul, le western résume finalement l'évolution de tout un art, hein, d'une industrie et même d'une société. Faut quand même se rappeler qu'au tout début du cinéma, les westerns étaient tournés avec des cavaliers américains émérites qui se faisaient payer $1 par chute, c'était pas très cher payé. Les films étaient financés par des véreux, le tout avec une bonne dose d'alcool, on est quand même dans le Grand Ouest américain. D'ailleurs, vous rappelez qu'à l'origine de la légende des cowboys, il y a le fameux Buffalo Bill, le ouais. vrai, qui a tué des milliers de bisons, ouvert un cirque, et c'est ce cirque qui va inspirer les premiers films de cowboys et indiens. Puis arrive le cinéma parlant, alors le public se tourne vers les comédies musicales, romantiques, les films noirs. Heureusement, c'est aussi à ce moment-là qu'une génération de jeunes réalisateurs, avec en tête John Ford, Raoul Walsh ou aussi Omar Hawks, que cette jeune génération de réalisateurs va redonner ces lettres de noblesse au western. Alors, mon premier conseil, justement, revoyez La prisonnière du désert de John Ford avec notamment John Wayne.
Il y avait une fois un homme que l'on devait craindre et respecter. John Wayne, dans le rôle de Ethan Edwards, campe un personnage d'une trempe peu commune. Guidé par son courage, il accomplit des actes que l'esprit humain a peine à concevoir. Mais jamais il ne se prend pour un martyr, jamais non plus il ne se prend pour un héros.
Je te promets qu'en fin de compte, on le retrouvera. Je te le promets.
Voici le récit des actions de cet homme implacable qui ne connaît point le repos, de cet être tendre et passionné. C'est aussi l'histoire d'un peuple qui ose s'attaquer à une terre hostile et des pionniers qui bâtissent une nouvelle nation.
Alors on est dans l'ambiance. Il ouais. faut préciser aussi qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la télévision fait son apparition, les studios tardent à trouver la parade et les westerns en série à la télé commencent à se multiplier.
Et puis Mathieu, on parle également aussi du western spaghetti.
Et oui, parce que c'est à cette période qu'en Italie, le western spaghetti, notamment incarné par Sergio Leone, va prendre le relais en modernisant les codes autant que les conventions. Alors le cow-boy va descendre un petit peu de son piédestal, prenant à contre-pied le modèle de héros qui était présenté jusqu'alors par Hollywood. Et là, c'est mon deuxième conseil. Il était une fois dans l'Ouest, je l'ai revu là aussi pendant ouais. ce confinement, Sergio Leone, Henry Fonda, écoute.
La terre hostile. Quel son, on entend même la mouche, c'est magnifique
la petite
de réentendre
mouche qui
ça.
Vole. C'est un film qui a un rôle important pour le western européen parce que c'est vraiment lui qui va démocratiser le genre. Et puis évidemment, il va inspirer de nombreux réalisateurs par la suite, comme Tarantino qui s'en réclame très très souvent.
Et alors, dans les westerns, les cowboys en gros, c'est toujours les gentils et les indiens, toujours les méchants. Et pour quelle raison?
Alors en fait, à l'origine, l'indien, vous savez, c'était une bestiole malfaisante qui empêchait finalement la civilisation d'arriver et d'aller dans cet ouest vierge et convoité. Mais il y a quand même, quand vous regardez dans l'histoire des westerns, quelques contre-exemples. C'est le troisième conseil de ce jour. Revoyez La Flèche brisée, qui est un petit peu moins connue, parce que c'est la première fois dans ce film que l'Indien n'est pas une caricature. C'est un film avec James Stewart.
Mathieu, La Flèche brisée,
Ça, c'est dans les années 60 ou 70. Ouais. Et ce qui est quand même assez dingue, c'est de se dire que dans tous ces films où vous aviez des Indiens, qui ont quand même une vraie culture à eux et un vrai territoire, etc., ils parlaient tous en anglais. Et donc, il a fallu attendre 1990. Et c'est en 90, dans Danse avec les loups de Kevin Costner, qu'on a enfin un Indien, j'allais dire en version originale, c'est-à-dire un Indien qui parle en langue indienne dans un film. Alors c'est vrai que c'est assez triste parce qu'aujourd'hui le western il paraît mourir un petit peu, on n'en voit plus beaucoup sortir dans les salles le western parce que c'est un genre qui coûte très cher, il faut des décors, il faut des beaucoup de cascades, mais il faut quand même signaler Dead Man par exemple de Jim Jarmusch ou True Grit des frères Coen qui font pour moi partie ces dernières années des meilleurs westerns, donc eux aussi allez les voir ou les revoir si vous avez le temps.
Merci beaucoup pour ces conseils de bons westerns aujourd'hui. Merci Mathieu Charrier, à très très vite. Nous on a fini pour aujourd'hui, mais on revient demain à 9h30 avec Culture Média. Nous serons avec Anne Gillet, là vous allez dire mais qui est-ce? Mais c'est la rédactrice en chef du magazine Cuisine Actuelle. S'il y a un magazine qu'on a envie de lire et s'il y a une chose qu'on a envie de faire, ce sont des recettes. Et puis la chanteuse Émilie Simon pour son projet musical lancé en plein confinement. Je vais pas arriver à le dire en français, je vais le dire en français. Mars on Earth de 2020. Je sais pas dire comment on dit 2020 en anglais. Vous allez retrouver Anne Romanoff, elle est bien française et sa bande pour Ça fait du bien. Europe 1, 11h.